Édouard Rode, Louisita. Après la longue journée des moissons, sous le soleil d'août, le père Baudruse, ses deux fils et sa bru se reposaient devant la ferme. Le père Baudruse atteignait ses 70 ans, qu'il portait sans plier le dos, comme un fardeau proportionné à ses forces. Il était de taille moyenne, trapu, avec de larges pieds et des mains dures, brunes, poilues. Il avait le profil net, le nez busqué, les joues rasées, de petits yeux gris, malins, sous des cils en broussailles, et conservait tous ses cheveux, qui grisonnaient à peine. En revanche, ses lèvres se recroquevillaient sur une bouche presque complètement édentée, ce qui, en marquant son âge, donnait à sa physionomie une expression très personnelle, mêlée de finesse et de jovialité. Il parlait avec lenteur, d'un ton sentencieux, entraînant les finales, en coupant les R et en hochant la tête. Il avait aussi un geste de la main droite qui lui appartenait bien en propre et qu'il répétait souvent. Il l'amenait à la hauteur du nez, le pouce replié sur les deux derniers doigts, les deux autres levés comme pour une affirmation solennelle. Et ce geste était catégorique. Sa ferme était la mieux tenue et la plus riche de Borin, un de ces beaux villages prospères qui se dressent parmi les vignes de la côte sur la rive vaudoise du Léman. Il y avait vu mourir, après peu d'années de mariage, sa première femme. Une bonne femme qui lui avait apporté un joli morceau de vigne, mais ne lui donna pas d'enfant. Il s'y était remarié avec une fille un peu mûre, bien dotée aussi, qui mourut en mettant au monde deux jumeaux. Et justement, Pierre et Gaspard entraient dans leur 25e année. On dit que les jumeaux se ressemblent toujours. De fait, dans leur petite enfance, on ne distinguait pas les deux garçons l'un de l'autre. Mais avec les années, ils changèrent. Gaspard resta de petite taille, plutôt blond, avec un teint de demoiselle, une fine moustache de couleur acajou, des manières douces, un parler poli. Pierre devint plus grand, plus fort, plus brun, plus barbu. Au moral, la différence fut encore plus accentuée. Gaspard prit toutes les gentilles manières. Il eut à l'école tous les premiers prix. Au champ, il suppléait par sa bonne humeur et sa bonne volonté à la force qui lui manquait un peu. Beaucoup plus robuste, Pierre faisait moins d'ouvrage, étant plus paresseux. Il était violent et brutal. Il avait un défaut jusqu'alors inconnu dans la famille, il buvait. Sans doute, on ne pouvait dire de lui qu'il fût un ivrogne, mais le dimanche, il rentrait presque toujours avec une pointe. Et le vin, au lieu de le mettre en gaieté comme les autres, le rendait sombre, irritable, méchant, si bien qu'on évitait de lui parler quand il revenait de la pinte. Son père s'en inquiétait, disant en hochant la tête « On ne sait pas ce que ça peut donner plus tard. » Même, ce fut dans l'espoir que le mariage le corrigerait qu'il le laissa, presque sans opposition, épouser Julie Turel, qui avait su l'enjôler. Une fille sans fortune, pas jolie, jaune comme un pain d'épices, avec des lèvres minces, la bouche en circonflexe, un profil en lame de couteau. Toute laide qu'elle était, Pierre déclara qu'il la voulait ou qu'il quitterait le pays, et on la lui donna. À 7 heures, elle était enceinte. Sa grossesse commençait à se dessiner. Le père Baudruse, qui la traitait assez mal les premiers temps, s'adoucissait peu à peu à la perspective d'être grand-père. La soirée restait chaude. Des lueurs d'incendie éclairaient l'horizon du côté des Alpes. Le père, les deux fils et la bru avaient mangé leur pot de soupe sous le vieux poirier, presque sans parler. Une soupe comme on n'en fait que dans les villages vaudois, épaisse, savoureuse, où tous les légumes du potager mêlent leur goût et leur arôme sur un fond de pommes de terre moelleuse comme une crème. Ensuite, ils mangèrent encore un bon morceau de pain et de fromage, qu'ils arrosèrent de plusieurs verres de vin de la dernière récolte. Un joli vin, couleur pelure d'oignon, plein de feu. Chaque fois qu'il buvait de ce vin-là, le père Baudruse faisait claquer sa langue en disant « C'est tout de même une fine goutte !» Réflexion qui en provoquait infailliblement d'autres, moins optimistes, sur l'oïdium, le mildiou, le phylloxéra, les dangers du sulfatage pour la qualité du vin. Le désastre final que serait pour le vignoble l'introduction des plants américains. Ce jour-là, le vieux vigneron avait dû lire quelque article menaçant sur la question, car après ses doléances habituelles, il ajouta « Pourtant, il faudra bien en arriver là. » Son front se ridait, chargé de soucis, ses lèvres tremblaient entre ses gencives vides. Oublieux de ses nombreuses années dont le terme approchait, il songeait obscurément à l'avenir lointain des vignes maintenues là, depuis tant de siècles, en bon rapport, et dont ses descendants ne connaîtraient qu'un fruit dégénéré. Hélas, déjà maintenant, ce n'était plus comme autrefois. Plus de 34, de 54, de 65, de 70. On ne reverrait plus le raisin mûr dès la fin d'août, les grains dorés sur les feuilles encore vertes, comme en 65. Et toujours davantage, grâce aux insectes invisibles, aux parasites, à la chimie, le vin se confondrait avec la piquette. De gros nuages se massaient dans un coin du ciel, vers l'occident. Le père Baudruse les examina, la main en abat-jour sur ses yeux, et dit, avec son geste de certitude, « Pour sûr, nous aurons un orage cette nuit. » Les deux fils et la Bru regardèrent à leur tour. Gaspard ajouta « Pourvu que ça ne soit pas de la grêle !» Pierre, aussitôt, démentit la demi-prophétie de son frère, qui voyait toujours les choses au pire. « La grêle ? Ouah, ça n'en a pas l'air !» Le vieux regarda de nouveau et dit « On ne sait jamais ce qui se brasse par là-haut. » Et ils se turent. Le crépuscule tombait. La maison, avec son toit bas, l'étang derrière la palissade, à côté du fumier, le jardin où de vieilles fleurs poussent amicalement parmi les légumes, le verger planté de pommiers arrondis, l'avenue bordée de noyers qui mène à la grande route, tout cela se noyait déjà dans l'ombre. Tandis que plus loin, à mi-côte, parmi les vignes, le clocher de l'église, remis à neuf depuis peu, étincelait dans un rayon de lumière frisante. Des bandes de nuages assombrissaient le sommet boisé des collines, au-dessus du vignoble semé de villages. Dans les arrière-plans, c'est à peine si l'on distinguait les lignes noires du Jura, sous des pans fuligineux du ciel. Les aspects heurtés de ce crépuscule, qui n'avait point son habituelle sérénité, préoccupaient le vieux paysan. Il dit en regardant le ciel « Ça se gâte tout de bon. Heureusement qu'on a rentré les blés. » En ce moment, le pasteur surgit derrière l'enclos du potager. Un bel homme, un peu mince, la barbe en collier, en redingote, cravate blanche, chapeau de paille. Il salua et dit « J'ai passé par chez vous, monsieur Baudruse, pour gagner du temps. Je viens de chez votre voisine, la mère Lancy, qui est bien malade avec son hydropisie. Je me demande si je pourrais rentrer à la cure avant l'orage. » Le père Baudruse examina le ciel encore une fois et répondit « Vous risquez d'être trempé, monsieur le pasteur. Ça sera violent, mais pas long. Asseyez-vous plutôt un peu là pour voir ce qui viendra. Peut-on vous offrir un verre ?»« Je vous remercie, monsieur Baudruse. Je n'ai vraiment besoin de rien. Bah, on sait ce que c'est qu'un verre de vin. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Il fit un signe à Julie, qui céda aussitôt sa chaise, et s'en fut chercher des verres et une bouteille cachetée. Le père Baudru sortit de sa poche un couteau à tire-bouchon, l'ouvrit avec précaution, déboucha la bouteille, essuya le goulot avec son pouce et remplit les verres en disant « C'est du 89, monsieur le pasteur. À la vôtre. » Ils trinquèrent. Le pasteur approuva. « Il est bon. » Un éclair passa dans les yeux du vieux paysan qui répondit « Si la chaleur continue, avec un peu de pluie par-ci par-là, vous verrez celui de cette année. » Puis il regarda de nouveau le ciel, où les nuages s'épaississaient rapidement, et ajouta « Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui vous attend. » Le pasteur dit « Tout dépend toujours de la volonté de Dieu. » Le père Baudruche lui jeta un regard de travers. En religion, il avait ses idées et n'aimait pas qu'on mêlât toujours le bon Dieu aux affaires de ce monde. « En tout cas, fit-il, ça n'est plus comme autrefois. Les belles années qu'on a eues dans notre jeunesse. À présent, ça va, ça vient, ça change. Il y a les maladies, il y a le mauvais temps. C'est à croire que la terre ne tourne plus la même chose. On a beau se défendre, rien n'y fait. Le phylloxéra avance toujours, malgré les précautions. Et il suffit d'un coup de vent pour détruire une récolte. » « L'homme s'agite et Dieu le mène, » reprit le pasteur. Pour l'interrompre, le père Baudruche trinqua de nouveau. « À la vôtre, monsieur le pasteur. » Un peu interloqué par cette riposte inattendue, le pasteur répondit pourtant « À la vôtre, monsieur Baudruche. » Tout à coup, le ciel s'obscurcit comme si des mains invisibles l'eussent en un clin d'œil barbouillé d'encre et de suie. « Diable !» s'écria Pierre en oubliant la qualité de leur hôte. Presque aussitôt, l'averse commença, avec une violence de déluge. Julie se précipita vers la cuisine, où les hommes la suivirent, chacun son verre en main, et le père Baudruche portant la bouteille à moitié vide. À peine la porte se fermait-elle sur eux, qu'un coup de tonnerre ébranla la maison. « Celui-là n'est pas tombé bien loin !» dit le père Baudruche. En même temps, un crépitement aigu annonça que la pluie se changeait en grêle. « Tu vois bien ?» dit Gaspard en regardant son frère. Pierre grogna « Grêle, nom de nom !» Excepté Julie, qui avait peur, tous s'approchèrent de la fenêtre restée ouverte. Des grêlons, gros comme des noisettes, rebondissaient jusque dans la cuisine. Pierre se baissa pour en ramasser un, le soupesa dans sa main, et ils se le passèrent l'un à l'autre comme des soldats une balle ennemie. Le pasteur murmura « Un malheur, un grand malheur !» L'orage dura quelques minutes à peine, puis s'arrêta brusquement, comme il avait éclaté. On put le voir s'éloigner vers l'Orient, chassé par le vent qui tordait les arbres, tandis qu'à l'ouest, des raies lumineuses déchiraient l'amoncellement des nuages. « C'est fini, grâce à Dieu !» soupira le pasteur. Très sombre, le père Baudruche répliqua « Faudra voir encore s'il nous a laissé quelque chose !» Le pasteur, un peu gêné, voulut prendre congé. Le vieux le retint. « Finissons la bouteille, d'abord !» Ils trinquèrent de nouveau. Debout, vidèrent leurs verres et s'essuyèrent les lèvres d'un revers de main. « Maintenant, dit le pasteur, je peux rentrer chez moi. Au revoir, messieurs, et merci. » Quand sa redingote eut disparu, le père Baudruche dit à ses fils « Si nous allons voir la vigne, hein ?» Et ils sortirent tous les trois. Les noyers de l'avenue avaient été hachés. Des branchillons cassés, des feuilles coupées, des fruits dans leurs coques vertes jonchaient le chemin. un des plus gros arbres, 2 ou 3 fois centenaire, restait marqué d'une longue brûlure. « C'est lui qui a reçu le coup, » dit le père Baudruse en s'arrêtant pour l'examiner. « Mais c'est un vieux de la vieille, il n'en mourra pas. » Il ajouta, en aparté, « S'il n'y a que ça de mal, on s'en sera tiré à bon marché. » Les derniers restes du jour traînaient dans le ciel quand ils arrivèrent au village, dont les maisons bordent la grande route. Ils s'engagèrent dans les vignes, où arrivaient par petits groupes circonspects d'autres propriétaires, inquiets comme eux. Et ils virent juste assez clair pour constater que le plus gros de l'orage avait frappé sur leurs biens. Les belles grappes jeunes étaient hachées comme les feuilles des noyers. Les ceps eux-mêmes, détachés de leur soutien, avaient été renversés, arrachés, foulés, mis en pièces par les mains furieuses de la tempête. À l'extrémité nord seulement, un petit coin de provignure qui séparait leurs vignes de celles du syndic restait intact. « La vendange est faite, » dit le père Baudruse, la voix sèche. Pierre répondit avec un regard haineux, « Le syndic n'a pas de mal, lui. » Et ils reprirent, silencieux, le chemin de la ferme. Un coup de vent avait suffi pour emporter leurs espérances. Maintenant, l'ouragan soufflait ailleurs, plus loin, ruinant les uns, épargnant les autres. Pourquoi ? Chapitre 1. Depuis qu'il se battait avec les saisons, le père Baudruse en avait vu bien d'autres. En 70 années, que de récoltes hachées par la grêle, que de moissons broyées par la pluie ou le vent, que de foin brûlé par la sécheresse. La crise passe, la nature répare le mal qu'elle a fait, les bonnes années compensent les mauvaises. En sorte qu'il ne faut jamais s'affliger outre mesure de ces malheurs-là, puisqu'on n'y peut rien, ni surtout perdre courage. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà le grand précepte qu'on se rappelle dans les difficultés. Avec ses 2 fils, il se mit bravement à relever les ceps, à les rattacher, à tailler les sarments déchirés, et la vigne reprit son aspect normal de belle vigne bien soignée. Il n'y avait plus de raisins, c'est vrai, mais l'avenir y pourvoirait. Parfois, quand le temps était bon, l'un ou l'autre disait « Voilà une journée qui aurait fait avancer la vendange ». Mais l'amertume de la perte subie s'atténuait, le souvenir de l'orage s'effaça. Or, un matin, à l'heure du dîner, pendant qu'ils étaient à table, devant un bon plat de choux et de salé, le facteur apporta un pli jaune avec un sceau officiel dans un coin, des timbres étrangers dans l'autre. Il le tendit au père Baudruse en disant, comme s'il venait lui-même du bout du monde, « Ça, ça ne vient pas d'à côté. » Et il alla continuer sa tournée, après avoir vidé d'un trait le verre de vin que Pierre lui offrit. Julie, curieuse comme une chèvre, fixait ses yeux écarquillés sur le pli jaune que le père Baudruse retournait dans tous les sens, inquiet comme on l'est toujours devant une chose inaccoutumée. « Qu'est-ce que ça peut bien être ? » demanda-t-il en regardant ses fils. Gaspard, dont l'esprit courait comme le vent, suggéra « C'est peut-être de l'oncle Charles ?» Aussitôt, le père Baudruse, déjà pensif, s'assombrit. C'était justement son idée, et il savait qu'on ne pouvait rien attendre de bon de ce terrible cadet, qui depuis 30 ans courait les 5 parties du monde comme un véritable Eimatlos, et qu'on avait vu reparaître au pays que 3 ou 4 fois, plus ravagé que le noyer frappé par la foudre, loqueteux à faire honte. Pierre dit « Peut-être qu'il est mort. » Cette espérance folle, un héritage, brilla au fond des yeux de Julie qui s'agita sur sa chaise et suggéra « Il n'y a qu'à regarder ?»« C'est vrai, » fit le père Baudruse. Sans hâte, il posa le pli sur la table, l'ouvrit avec son couteau de poche et en tira trois papiers. D'abord, une grande feuille, couverte d'une belle écriture soignée, avec une signature illisible au bas et le même sceau que sur l'enveloppe. Le père Baudruse l'attendit à Gaspard. « Lis-nous ça, veux-tu ?» Julie, les yeux brillants, appuya ses deux coudes sur la table et son menton sur ses deux mains. Gaspard dit « Ça vient du consulat suisse de Buenos Aires. » Et il lut « À Monsieur Louis-Auguste Baudruse, propriétaire à Beaurain, canton de Vaud. Monsieur, pour répondre au désir de votre défunt frère, Charles-Alexandre, décédé le 18 du mois courant dans l'hospice de cette ville, j'ai l'honneur de vous transmettre la lettre qu'il a écrite pour vous à son lit de mort. Je vous prie de nous faire savoir au plus tôt si vous avez l'intention d'accéder aux vœux qu'elle exprime. Dans le cas contraire, nous prendrions les mesures nécessaires pour assurer à l'orpheline qu'il a laissée l'appui de sa commune d'origine, à laquelle nous l'adresserions. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération pour le consul. » Gérard essaya vainement de déchiffrer le nom du signataire et renonça. Un long silence suivit cette lecture. Les yeux de Julie fuyaient, assombris encore par la méfiance. Gaspard considérait la lettre comme pour tâcher de lire entre les lignes ce qu'elle laissait d'inexpliqué. Le père Baudruse grogna « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il regarda l'une après l'autre les deux feuilles qui restaient et finit par entendre une à Gaspard. Une feuille de mauvais papier quadrillé, couverte d'une grosse écriture tremblée qui s'en allait dans tous les sens. « Lis voir ça, hein ?» Gaspard se mit à l'œuvre, non sans peine, car ce n'était plus de la calligraphie officielle. « Mon frère, cette fois j'ai bien fini mes voyages, et je ne reviendrai plus te tracasser au village. Je ne reverrai ni Beaurain, ni toi, ni personne. Je suis en train de finir, comme je devais finir, et de crever à l'hôpital. Et j'ai un souci qui m'empêche de m'en aller tranquille. Une fille que j'ai eue comme ça quelque part, et que j'ai gardée avec moi. Elle a 15 ans, et c'est une brave fille. Et moi, je voudrais bien qu'elle soit une honnête fille, qu'elle ne reste pas ici, qu'elle rentre au pays que j'ai eu tort de quitter. Alors j'ai pensé à toi, qui dois être heureux, tranquille, à ton aise, comme les gens qui ont su rester à la même place. Et je me suis dit que tu la recueillerais peut-être, puisque c'est ta nièce. Je l'ai reconnue et elle porte mon nom. Donc, si tu veux être bon, fais-la venir. Elle aura de quoi payer le voyage, mais rien de plus. Et t'arriveras sans autre chose que ce qu'elle a sur le dos, parce que je n'ai rien à lui laisser. Tâche de faire cette bonne action. Ça te portera bonheur. Je m'arrête, parce que je n'y vois plus. Ton frère, Charles Baudruse. » Quand il eut fini, Gaspard regarda son père, qui serrait terriblement fort ses gencives sur ses lèvres. Julie promena un coup d'œil furtif sur les trois hommes pour tâcher de deviner leurs idées et baissa les yeux sur son assiette. Le père Baudruse tira son mouchoir à carreaux, se moucha bruyamment, le remit dans sa poche. Puis il tendit la troisième feuille à Gaspard, comme à regret, par crainte de son contenu. « Voyons voir celle-là, ce qu'elle chante. » La feuille était encadrée de noir, l'écriture à peine formée, inclinée et fine. La lettre disait « Mon cher oncle, je voudrais ajouter une chose à la lettre de mon pauvre père, qui est mort quelques heures après vous avoir écrit. C'est que je voudrais beaucoup aller chez vous, si vous avez la bonté de me recevoir. Je serai une bonne fille pour vous et la sœur de mes cousins, dont mon pauvre cher père m'a souvent parlé quand il me parlait de sa famille et de son pays. Je ne voudrais pas rester ici, où je ne saurais que devenir ni que faire, seule comme je suis. Et aussi parce que mon pauvre père me disait toujours qu'on est mieux dans son pays et qu'il m'y amènerait un jour. Monsieur le consul est très bon pour moi, mais il trouve aussi qu'il faut que je parte. Je puis travailler, je suis forte et bien portante, et ce n'est pas le courage qui me manque. Je ferai tout ce que je pourrai pour être digne de votre bonté, et je suis bien inquiète en attendant votre réponse. Votre nièce affectionnée, Louisita Beaudruse. La bizarre consonance du nom et du prénom amena un demi-sourire sur les lèvres de Gaspard. Louisita Beaudruse. Comment une Beaudruse pouvait-elle s'appeler Louisita au lieu de Louise? Était-elle donc espagnole, cette cousine-là? Peut-être qu'elle savait à peine le français et qu'on lui avait écrit sa lettre. Pendant qu'il se posait ces questions, Julie pensait des choses qui devaient être peu bienveillantes, car elle pinçait les lèvres, fronçait les sourcils, et son profil sec exprimait un commencement de colère. « Donne-moi tout ça, » dit le père Beaudruse en avançant la main. Gaspard lui tendit les trois lettres. Il les posa à côté de son assiette, où la graisse des choux se figeait, mit ses lunettes et les relut très lentement. À chaque mot, ses lèvres remuaient dans sa bouche. Le froncement de ses sourcils trahissait l'effort de son attention. De temps en temps, il grognait d'étonnement. Les autres l'observaient sans rien dire. Julie avait relevé la tête. Ses petits yeux durs essayaient de lire dans la pensée de son beau-père. Gaspard tambourinait des doigts sur la table. Pierre avala quelques bouchées de salé, puis remplit et vida deux fois son verre. Le père Beaudruse, ayant fini, plia les trois lettres, les remit soigneusement dans l'enveloppe et dit « Puis il se prit la tête dans les deux mains et s'accouda sur la table, immobile. Jamais il n'aurait cru que la mort de son frère lui ferait de la peine, n'ayant eu de ce cadet que des chagrins. Pourtant elle lui en faisait. Des souvenirs en foule lui revenaient de très loin. La naissance tardive du petit, arrivée quand on n'attendait plus personne, comme un voyageur qui a failli manquer le coche, disait leur père avec un gros rire. Ces farces de gamins qui tournent au mauvais sujet dès l'école, ces frasques de jeunes hommes, surtout une histoire de fille qui bouleversa le village, son départ joyeux pour faire fortune par un beau jour de printemps, ses retours affamés, piteux, lamentables, qui le ramenaient à de longs intervalles, vieilli, changé, battu par les hasards de la vie errante. Avec tout cela, pas un atome de méchanceté, et une telle bonne humeur qu'on lui aurait pardonné bien des choses, si l'argent qu'il voulait toujours semer sur les grandes routes du monde n'était pas si dur à gagner. Pour la seconde fois, le père Baudru se moucha dans son mouchoir à carreaux, et il dit, en hochant la tête, « Tout de même, il n'a pas eu de chance, ce pauvre Charles !» Julie se mordit les lèvres, rageusement, tandis que les deux frères échangeaient un regard étonné. Jusqu'à ce jour, ils avaient toujours entendu leur père parler de l'oncle Charles comme d'un véritable fléau. Et ils étaient encore trop jeunes pour savoir comment la mort change nos idées sur les gens. Pendant qu'ils s'étonnaient, leur père continuait à s'attendrir, en dedans. Mais il n'exprima pas ses pensées. Après un long silence seulement, il déclara, en ôtant ses lunettes, « Il faudrait pourtant finir de dîner. » Ils reprirent leurs fourchettes, comme des soldats au commandement. À la première bouchée, Julie fit la grimace et dit « C'est tout froid. » Personne ne releva l'observation, et ils achevèrent leur salé et leur chou, sans plus parler de l'oncle Charles, ni de la cousine Louisita. Ce fut seulement le lendemain soir, après la soupe, que la conversation reprit. Le père Baudruse avait réfléchi toute la journée, bien qu'il eût justement à s'entendre avec le meunier. Il faisait ses affaires comme si de rien n'était, mais on voyait bien que les idées travaillaient dans sa tête chenue, sous son front labouré de rides comme un champ où la charrue a passé. Le soir, quand ils se trouvèrent réunis sous le vieux poirier, comme le jour de l'orage, il dit « Tout de même, il faudra bien leur répondre à ces gens là-bas. Un consul, ça ne doit pas attendre. » Julie, qui commençait à enfiler un collier de haricots verts pour les sécher, interrompit son ouvrage et dressa l'oreille. Pierre dit, pour dire quelque chose, « Les lettres pour ce pays-là ne vont pas vite. » Gaspard appuya, « Il faut au moins 15 jours. » Le père Baudruse répéta, « C'est pour ça qu'il faut répondre. » « Et quoi ?» Jamais, en aucun cas, grave ou non, il n'avait songé à prendre la vie de ses fils. Aussi sa question les surprit-elle. Plus encore l'air et le ton dont il la posa. Comme s'ils n'eussent pas été bien sûrs qu'elle leur fût adressée, ils n'y répondirent pas tout de suite. Enfin, Pierre hasarda, d'un air important, « Il faut voir. » Plus explicite, Gaspard ajouta, « Après tout, c'est notre cousine, cette petite. » Sa belle-sœur lui décocha un regard noir en cassant nerveusement 2 ou 3 haricots entre ses doigts. Le père reprit, « Si encore on savait quelle espèce d'oiseau ça peut être que cette fille. Mais voilà, on ne sait rien de rien. Où est-ce qu'elle est née? Quel diable de mère avait-elle? Ils auraient bien pu nous dire ça, puisqu'ils ont écrit. » Pierre répéta, « Bien sûr, on ne sait rien. Alors, comment se décider ?»« On sait qu'elle est dans le besoin, et que c'est notre cousine, » affirma Gaspard en revenant à son idée. « La famille, c'est la famille, n'est-ce pas ?» Un nouveau regard de sa belle-sœur lui fit baisser le nez. Puis, le père Baudruse, poursuivant ses calculs intérieurs, répondit à des objections que personne ne faisait. « C'est que, si je dis non, ils écriront à la commune, et c'est la commune qui la fera venir. Le syndic sera tout content de nous jouer ce tour-là. »« Oh !» dit Gaspard, « s'il peut nous jouer un tour. »« Oui, mais... » fit Pierre en prenant un air agressif. Le père Baudruse continua comme si les autres n'avaient rien dit. « Et nous ne pourrons pas la laisser à la charge de la commune. Les gens diraient qu'on est des sauvages. Alors, puisqu'elle viendra quand même... » Il n'acheva pas d'exprimer sa pensée, d'ailleurs assez claire pour être comprise à demi-mot. Autant faire de bonne grâce qu'il faudrait accepter de force. Julie étouffait. N'y tenant plus, les yeux pleins de larmes, elle dit « Mais qu'est-ce qu'elle fera par ici ?» Le père Baudruse répliqua d'un ton bourru « Eh parbleu, ce que font les femmes, ça n'est pas l'ouvrage qui manque. » L'air soucieux, il ajouta « Il faudra bien qu'elle travaille, puisqu'on la prendra. » Les autres se turent, comprenant que l'affaire était réglée, et il grogna « Quelle sacrée histoire que celle-là !» En ce moment, le pasteur apparut, comme l'autre soir, derrière la palissade du jardin. Il s'arrêta devant le groupe avec la même phrase, ou presque. « Vous me pardonnerez d'avoir encore traversé vos champs, monsieur Baudruse. Je viens de chez votre voisine, la mère Lancy, qui va de plus en plus mal. » Le père Baudruse répondit à peine. Le pasteur, la main dans le revers de sa redingote, reprit. « Quelle belle journée aujourd'hui! Fameuse pour la vigne, hein ?»« Nous, » dit Pierre, « notre vendange est faite. »« Vous aurez pourtant quelque chose, » demanda le pasteur. « Pas ça !» Et Pierre fit claquer son ongle sous ses dents. « Heureusement que vous pouvez supporter cette perte, » conclut le pasteur. « Vous êtes de braves gens, courageux. » Et vous savez que tout ce qui nous arrive, le mal comme le bien, vient de la volonté du Seigneur. » Il attendit une réponse que personne ne lui fit, et comme le silence était gênant, prit congé. « Allons, bonsoir, messieurs. »« Bonne nuit, monsieur le pasteur. » Était-ce le bon Dieu qui l'envoyait, cette petite étrangère, comme un rayon de soleil qui vient à point, ou comme la grêle au mois d'août? Qui pouvait le savoir? Chapitre 2. Les gens ont beau garder pour eux leurs affaires, les voisins les découvrent toujours. Peut-être Julie dit-elle quelque chose à la servante, ou les valets entendirent Pierre et Gaspard causer entre eux. Le fait est que moins de 8 jours après la lettre du consul, tout le village sut que les Vaudrus attendaient la fille de ce pauvre diable de Charles-Alexandre, mort à Buenos Aires après avoir roulé sa bosse à travers les continents. Ce fut une aubaine pour la curiosité, qui ne chôme jamais. Les bonnes gens se questionnaient avec des airs de mystère, inventant au besoin des détails pour paraître mieux renseignés. Au lavoir, on ne parlait que de cela. Dès que Pierre entrait au cabaret, ses camarades tâchaient de lui tirer des vers du nez. « Alors, quand est-ce qu'elle vient, ta cousine? Sais-tu seulement où c'est, Buenos Aires? Les oncles de ce pays-là, c'est des oncles cossus. Elle va rapporter des lingots plein ses malles. » Pierre savait tenir sa langue. Il répondait par des « peut-être » et des « on verra bien » qui ne voulaient rien dire. Les curieux en étaient pour la chopine qu'il lui avait offerte. « C'est une bonne œuvre que vous faites là, monsieur Baudru, » dit le pasteur au vieux paysan dont il traversait une fois de plus la propriété en revenant de chez la mère Lancy qui se cramponnait à la vie. « Vous avez montré que vous avez bon cœur. » Le vieux répondit en philosophe « On fait ce qu'on peut, monsieur le pasteur. » Il disait vrai. S'il avait pu, honorablement, laisser sa nièce de l'autre côté des mers, il l'aurait fait sans aucun doute. Il en était plus sûr de jour en jour, à mesure que s'en allait le vague attendrissement causé par la mort de son frère, à mesure qu'approchait le moment où l'on verrait débarquer l'étrangère. Car on n'avait pas tardé à l'expédier de là-bas. Une nouvelle lettre du consul indiqua le jour de son départ, avec le nom du bateau qui l'emportait et la date probable de l'arrivée. En touchant terre, elle devait lancer un télégramme pour s'annoncer. Pas moyen qu'elle se perde en route. Parfois, on discutait les risques ou la durée probable de la traversée, dont le régent parlait comme s'il l'eût faite une dizaine de fois. Il savait tout, ce petit jeune homme à binocle, qui semblait presque un de la ville dans son complet gris avec sa cravate verte. Et il en raconta tant qu'on en voulut sur la République de Buenos Aires, sur son gouvernement, sur ses mœurs, sur ses habitants. Si bien que Gaspard finit par se représenter très clairement le pays d'où venait sa cousine, et trouva que l'oncle Charles n'avait pas eu tort de la renvoyer au village, où l'on est mieux que partout ailleurs. La dépêche attendue arriva en pleine vendange. Si les Baudrus avaient eu les récoltes habituelles, c'eût été un dérangement. À ce moment-là, les chars sont tous en réquisition, les hommes et les chevaux sont sur les dents, on a bien autre chose à faire qu'à s'en aller chercher des valises à la gare. Mais, comme ils n'avaient rien à vendanger, et ne pouvaient que rager dans leur cour en regardant passer les bossettes pleines des voisins, ils furent plutôt contents de cette diversion. « Au moins, grogna le père Baudruse, ça fera faire une petite trotte à la blanche. » Les deux frères, avec le char à banc, allèrent attendre leur cousine à la ville voisine où s'arrêtait l'express. Partout sur la route passaient les chars des vendangeurs, car l'année était bonne, sauf pour les victimes de la grêle, et le pays se réjouissait. En traversant les villages, ils pouvaient voir les pressoirs ouverts, les tines où les gamins piquent les raisins à demi écrasés, ou tâchent de fiffer le mou avec des pailles. Les brantes posées à côté des portes, les groupes de vendangeuses folâtrant avec les garçons. Et cela les vexait, car rien n'est plus humiliant que d'être privé des biens dont les autres ont leur part. Aussi, de temps en temps, Pierre lançait-il un gros juron en cinglant les flancs de la Blanche. En arrivant, ils eurent juste le temps de prendre un verre à la buvette en attendant le train. Du nouveau, naturellement, bien qu'il commençât à peine à piquer la langue. « Et il sera bon !» dit Pierre en s'essuyant la bouche. « Meilleur que le dernier ! Nom de nom !» Le sifflet du train les appela sur le quai d'arrivée, où des voyageurs descendirent. Comment distinguer leur cousine d'Amérique parmi ces visages inconnus ? Personne ne ressemblait à l'image qu'ils s'en étaient faite et qui flottait dans leurs yeux. Une fillette maigre, exténuée, vêtue de loques, avec des airs de chien perdu. Mais, comme les nouveaux arrivants quittaient la gare, ils remarquèrent une grande jeune fille élégante, coiffée d'une jolie toque noire, le visage à demi caché par sa voilette, qui restait debout à côté d'une valise, un petit sac à la main, et semblait chercher quelqu'un. « Ça serait-il ça ? » demanda Pierre à son frère en la désignant d'un clin d'œil. « Trop grande !» répondit Gaspard. « Il n'y a plus que celle-là qui attend, et voilà le train qui repart. » Elle promenait autour d'elle des regards qui cherchent et qui s'arrêtèrent un instant sur eux. Alors, malgré la voilette, ils s'aperçurent qu'elle était étonnamment jolie, avec des yeux de noir ardent, des yeux si beaux, si profonds, si lumineux, qu'ils vous éblouissaient comme du soleil, et qu'une fois qu'on les avait vus, on ne pouvait cesser de les regarder. « Nom de !» murmura Gaspard, qui pourtant ne jurait jamais. Avec cela, habillée comme si elle sortait de chez la tailleuse, propre, soignée, correcte, n'éveillant nullement l'idée d'une orpheline abandonnée qui vient de l'autre côté des mers sans un sou dans sa poche. « Ça ne peut pas être elle !» dit Pierre en se grattant la nuque. « Si on lui demandait voir !» hasarda Gaspard. Les yeux noirs qui continuaient à chercher s'arrêtèrent de nouveau sur les deux frères, avec plus d'insistance, comme s'ils eussent demandé « Voyons, n'est-ce pas vous ?» Pierre dit « Essaie, si tu oses t'y frotter !» Gaspard s'approcha de la voyageuse en ôtant son chapeau. « Pardon, mademoiselle, est-ce que vous allez peut-être à Borin ?» Elle le dévisagea rapidement et répondit avec un léger accent étranger en roulant les airs. « Seriez-vous monsieur Baudruse ?»« Parfaitement. Eh bien, c'est moi, votre cousine. » « Alors, venez. » Une gêne les gagnait tous les trois. Pierre et Gaspard avaient honte de leurs blouses bleues, de leurs chapeaux usés, de leurs gros souliers à clous, et songeaient que les habits des dimanches devraient justement servir en ces occasions-là. Après les yeux noirs de leur cousine, ils découvraient son teint blanc, que le long voyage n'avait pas brouillé. Sa fine bouche, qui semblait une cerise fraîche, attardée dans la saison et plus appétissante que les plus beaux raisins. Tous ses traits si jolis, si beaux, que jamais ils ne s'étaient sentis comme cela remués au fond d'eux-mêmes par un minois de femme. Ils pensèrent qu'ils l'auraient désormais à côté d'eux, toujours, au repos, au travail, les soirs d'été sous le vieux poirier, les soirs d'hiver à la cuisine, devant la cheminée où flambent les grosses bûches. Cette pensée leur causa une sorte de peur très douce qu'ils n'auraient su expliquer, la peur d'une chose qu'on attend, qu'on voit, qu'on veut avoir, qui fait mal, dont on mourra peut-être, mais à laquelle on ne renoncerait pour rien au monde. Quant à elle, personne n'aurait pu deviner ce qui se passait au fond de ses yeux infinis, sous son délicieux petit front qu'encadraient les bandeaux de ses cheveux noirs comme ses yeux. Peut-être se disait-elle simplement « Voilà deux ours qu'il me va falloir apprivoiser ». Peut-être avait-elle peur aussi, autrement, soit de leur blouse bleue, soit de l'inconnu de sa nouvelle vie. Gaspard demanda « Avez-vous d'autres bagages, ma cousine ?»« Non, mon cousin. » Pierre, pour montrer sa force, souleva la valise comme un fétu et la chargea sur le derrière du char à banc avec un rouleau de châle et un sac à main. Puis, comme Gaspard était monté le premier et tenait les rênes, il dit « À vous, ma cousine, entre nous deux. » Louisita mesura la hauteur du char, posa le pied sur le moyeu de la roue et sauta légèrement, sans donner à Pierre le temps de l'aider. « Voilà !» dit-elle en riant. Pierre avait aperçu un pied plus petit que celui de Cendrillon, un bas de jambe exquis, la subtile indication d'une grâce de forme dont jamais au grand jamais il n'aurait eu seulement l'idée. Et il eut comme un regret subi, douloureux comme une brûlure, d'avoir laissé sa cousine monter à côté de son frère, qu'il sonda d'un regard soupçonneux. Mais Gaspard ne semblait penser à rien. Il fouetta la blanche qui partit au trot. On cahotait durement. Dans les rues, les gens de la petite ville, debout devant leurs boutiques, suivaient des yeux l'attelage ou bavardaient entre eux. Puis la campagne s'ouvrit, verte, souriante, baignée par le soleil d'automne, et le château, le vieux château bernois flanqué de tourelles, s'éloigna et disparut bientôt. « On doit être fatigué quand on vient de si loin, » dit Gaspard. « Mais non, pas trop, je vous assure. » La voix de Louisita avait des sonorités étranges, comme le gazouillis d'un oiseau inconnu. « Vous avez fait bon voyage ?»« Oui, je vous remercie. » Ses longs cils se baissèrent sur ses yeux noirs, comme si elle eût craint qu'ils trahissent le dégoût de la traversée, dans la cohue lamentable des émigrants malchanceux qu'on rapatrie. « Ça doit être beau sur la mer, » dit Gaspard. Elle pensa aux odeurs nauséabondes du navire, aux mornes groupes qui encombraient l'entrepôt, mais elle répondit « Oui, c'est très beau. »« Nous, » dit Pierre, « on ne l'a jamais vue, la mer. On ne la verra jamais. » Gaspard ajouta « Quand on pense que le monde est si grand, on voudrait tout voir, tout. » Louisita répondit « Mon père me répétait toujours qu'il vaut mieux vivre là où l'on est né. » Ils continuèrent à deviser ainsi, par phrases brèves, questions et réponses, pendant que le char filait à travers la campagne. Des vaches pâturaient dans les prés, restés verts, tachés çà et là par des bois ou des bouquets d'arbres dont les feuillages prenaient déjà les couleurs variées et somptueuses des fins de saison. D'un côté, par échappée, apparaissait la nappe bleue du lac, un peu agitée, comme couvert d'écailles d'argent, tandis qu'à l'arrière-plan, les premières neiges recouvraient les hauts sommets des Alpes. De l'autre, la muraille du Jura, presque blonde, presque transparente dans la lumière matinale, fuyait vers les collines vineuses où bientôt l'on distingua la vieille église de Borin. Gaspard la désigna à sa cousine en étendant son fouet et il expliqua « Notre ferme est au-dessous, d'ici on ne la voit pas. » On traversait des villages prospères qui alignent le long de la grande route leurs maisons blanches à volets verts, à toit lent, ou des vignes fourmillantes de vendangeurs, dont les silhouettes brunes se détachaient en vigueur autour des ceps qu'ils dépouillaient, tantôt foulant le grain dans leurs brantes, tantôt penchés sur leurs seilles à demi remplies, ou debout, au repos, une grappe à la main. Quelques-uns, au bruit du char, se redressaient, la main en abat-jour sur leur chapeau, pour le suivre un moment du regard avant de se remettre à l'ouvrage. Souvent, quand il remollait les filles pour les punir d'avoir oublié des grappes sous les feuilles, le bruit de leur grosse gaieté arrivait jusqu'à la route. Pierre dit à sa cousine « Vous voyez qu'on s'amuse bien par chez nous ?» Mais Gaspard eut une bonne idée. « Tiens les rênes un moment, » dit-il à Pierre. Il sauta du char sans l'arrêter, s'approcha d'un groupe de vendangeurs, parlementa avec eux et rattrapa la Blanche, son chapeau rempli de grappes magnifiques. « Voulez-vous goûter les raisins, ma cousine ?» Louisita n'en avait guère envie. Elle accepta pourtant, par crainte de le contrarier, pendant que Pierre rendait les rênes en avalant sa bile de n'avoir pas eu la bonne idée de son frère. Cependant, Gaspard, tout heureux de voir la jeune fille piquer les beaux grains dorés, dit avec l'orgueil naïf des vignerons « Vous n'en avez pas d'aussi beaux là-bas, hein ?»« Je ne crois pas. Les nôtres sont encore meilleurs, mais on ne pourra pas vous les faire goûter cette année. C'est la grêle qui a vendangé. » À mesure qu'ils approchaient de Beaurain, les vendangeurs les reconnaissaient, les saluaient, et pendant que le char continuait sa route, échangeaient leurs réflexions. « C'est la cousine d'Amérique qui est avec eux. »«
La fille à Charles-Alexandre ?»«
Bien sûr. » Le syndic, qui avait toujours le mot pour rire, dit à son fils « Ils n'auront eu qu'une grappe cette année, les Baudruses. Mais pour une belle grappe, c'est une belle grappe. » La vraie grappe de Chaland, quoi. » Dans le village, ils rencontrèrent le régent et le pasteur qui causaient devant l'école sous le tilleul. Gaspard avait mis la Blanche au pas pour obéir à l'écriteau bleu cloué par la commune à l'angle de la première maison. Aussi, les deux hommes eurent-ils le loisir d'examiner le char en écarquillant les yeux. Puis, le régent se retourna vers le pasteur et dit « Oh, bien !» Sa bouche même était au point d'exclamation. Le pasteur, pensif, caressa son menton rasé en répondant « Le père Baudruse s'est conduit comme un vrai chrétien. » Le régent s'était remis à suivre des yeux le char à banc, qui tourna pour entrer dans l'avenue des Noyers. Il regarda un moment en l'air et demanda « « Savez-vous si elle a de quoi, monsieur le pasteur ?» Avec un geste de prudente réserve, le pasteur répondit « Je n'en sais rien, mais cela n'est pas probable. » Le régent poussa un gros soupir et ne dit plus rien. Devant la ferme, le père Baudruse attendait en bras de chemise, en sabots, très malpropre. Il venait justement de s'occuper du ruclon et il exhalait une forte odeur de bouse de vache. Au son des grelots de la Blanche, Julie, qui pelait des pommes de terre à la cuisine, accourut son couteau à la main, et elle s'arrêta sur la porte, pétrifiée. Le père Baudruse s'approchait lentement, en fronçant les sourcils, comme s'il doutait de ses yeux. « Alors ? » demanda-t-il. « C'est toi ? C'est bien toi ? Qui es ma nièce ?» Intimidé à l'aspect de ce vieillard dont la poitrine velue se montrait sous le débraillé de la chemise, Louisita balbutia « Oui, mon oncle. »«
C'est bien toi qui devais venir ?»«
Mais oui. »«
C'est qu'on m'avait écrit, le consul de là-bas, que tu étais une petite fille de 15 ans. »«
Eh bien, j'ai 15 ans. »
Sans les mois de nourrice. »
Sans comprendre le sens de l'allocution, la jeune fille rougit. « Dans mon pays, on grandit plus vite, » expliqua-t-elle. Ce n'était pas seulement la taille et la stature qui étaient presque d'une femme, mais la voix, les gestes, les paroles. Julie s'approcha pour mieux voir, et ils se mirent, elle et son beau-père, à examiner la petite des pieds à la tête, comme une génisse qu'on va marchander. Il faut croire que, même sur le vieux paysan, la beauté produisit son effet accoutumé, car ce fut d'une voix adoucie qu'il reprit.
Qu'est-ce qu'on va faire de toi par ici ?
J'aiderai dans la maison, mon oncle.
Toi ?
Oh, je peux travailler. Je sais coudre, je me porte bien, je ne suis pas paresseuse.
Elle s'émouvait, sa voix trembla.
Enfin, dit le vieux en hochant la tête, on verra. Pour le moment, je pense que tu as besoin de casser une croûte et de te reposer.
Surtout de me reposer, dit Louisita d'une voix qui devenait presque suppliante.
Eh bien, Julie va te montrer ta chambre. Julie, c'est la femme de Pierre, tu sais. On te laissera tranquille tant que tu voudras.
Julie avait écouté sans mot dire.
« Venez, ma cousine, » fit-elle. Les deux paires d'yeux noirs se rencontrèrent une seconde. Presque aussitôt, ceux de Louisita se réfugièrent, effrayés derrière leurs longs cils. Et ce fut en tremblant qu'elle suivit la jeune femme dans l'escalier rapide dont une marche s'effondrait.
« C'est très simple, » dit Julie en ouvrant la porte de la chambrette. « Mais je pense que c'est tout ce qu'il vous faut. »
Il y avait un lit de bois blanc, deux chaises paillées, une cuvette sur une vieille commode en noyer, devant un miroir grand comme la main, dans un cadre de papier mâché.
« C'est très joli, » répondit Louisita.
Julie reprit avec aigreur. « Vous savez, on n'est que des paysans. »
Les grands yeux noirs se relevèrent sous les cils qui palpitèrent un instant.
« Et moi, » semblait-il répondre, « que suis-je donc ?»
Il y eut un instant de silence. Julie le rompit en disant « Vous avez de l'eau, du savon, du linge. Vous faut-il autre chose ?»«
Non, merci, ma cousine. »
Et Louisita resta seule et pleura.